Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue pour cette nouvelle émission en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, la seule Sciences Po subsistante en France. Avec une nouvelle importante, c'est que, bon, comme vous le savez, le campus il est toujours à Lyon, mais pour la rentrée prochaine, la première année de master se fera à Paris. Donc c'est une réforme très importante qui s'adresse à des gens beaucoup plus près de Paris et de d'autres endroits de la France, puisque comme vous savez, c'est comme ça, la France est organisée autour de Paris, c'est son histoire qui le veut, on n'est pas en Allemagne, hein, dont l'unification a été tardive, la France c'est tout le contraire, elle a été faite par ses rois, autour de cette capitale inaugurée par Clovis, Lutèce, alors qu'avant, la capitale des Gaules, si on peut dire, c'est toujours d'ailleurs aux yeux de l'Église la capitale des Gaules, c'est Lyon. La ville du dieu Lug, dédiée au dieu Lug, Lugdunum, comme London, c'est la même chose, hein, c'est le même nom que Lyon. Bref, on va pas faire un cours, il s'agit pas de ça. Cela dit, nous sommes une émission, bien entendu, en lien avec l'enseignement supérieur, avec la crise de l'enseignement supérieur, avec la contamination de l'enseignement supérieur en particulier, mais de tout l'enseignement en général, par l'idéologie qui nous opprime. Je reçois aujourd'hui effectivement un doctorant iranien d'opposition. Voilà, c'est comme ça, donc on va préciser les choses. Et Ehsan Kazi, et je lui demande pardon parce que je comptais faire une introduction un peu longue, donc il va falloir qu'il patiente un tout petit peu, mais qu'on est au cœur du sujet. Puisque, bah, comme vous le savez, il y a une guerre en Iran. Alors bon, avec les États-Unis de M. Trump, on n'est jamais sûr de rien, bien sûr. Il n'est pas du tout impossible que l'Amérique, avec sa puissance matérielle et militaire, ait une nouvelle fois perdu cette guerre. Ce qui serait nouveau, c'est de la perdre aussi rapidement, en quelques mois seulement. Les États-Unis ont perdu toute leur guerre depuis 1945, mais peu importe au lobby militaro-industriel, l'essentiel est de faire marcher la machine. Cependant, 20 ans de guerre en Afghanistan avant de la perdre, une petite dizaine d'années au Vietnam avant de la perdre, bon, ça c'était encore possible. Là, au bout de quelques mois, on a une machine de guerre formidable, qui est la machine américaine, qui est commandée par des incompétents. Donc ça explique beaucoup de choses. Cela dit, le dernier mot n'est peut-être pas encore arrivé. En Occident, vous savez, tout ça, ça se passe chronologiquement, non pas de cause à effet, mais chronologiquement après un soulèvement des Iraniens, qui a d'abord été passé sous silence dans nos médias, alors que les sites de réinformation faisaient leur travail. Je pense aux francophones Iran Résiste, ou la Femme Azadi, ou bien des sites anglophones comme Tousi TV, quelques autres encore. Alors un homme de mon âge, celui du prince actuel, ne peut qu'être étonné de voir la différence entre l'information médiatique massive relatant les événements de 1978-79 et la parcimonie des mêmes médias sur le terrain aujourd'hui. Nous ne disposions que de brefs enregistrements audiovisuels réalisés sur place par téléphone, par des Iraniens eux-mêmes. Mais cette différence de traitement s'explique évidemment par l'idéologie. La révolution islamique de 1979 ne fut pas seulement la mère du terrorisme islamique dans le monde, elle fut également la première expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme, dont on a eu encore une manifestation assez spectaculaire il y a seulement 2 jours, Ivry, lors de la tenue de ce conseil municipal qui, je pense, restera dans les annales. La haine de la monarchie à gauche rencontra les intérêts de l'islamisme dans une entreprise commune d'arracher l'Iran à ce qui lui restait de ses racines historiques. Et bien de même chez nous, la République rêve depuis 2 siècles de faire disparaître tout à fait la France des cathédrales, et ce projet ne peut pas trouver meilleur allié que l'islam, dont le principe même est de renverser la culture chrétienne. Comme pour la révolution iranienne de 1979, on connaît par avance le destin de cette alliance, bien sûr. Après être parvenu au pouvoir Grâce au fonctionnement démocratique de la République, les islamistes d'ici chasseront à leur tour les républicains pour installer leur charia. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Iran. Ce soit déjà en France, quand une candidate islamo-gauchiste aux dernières élections municipales de Saint-Ouen, Madame de Canton, s'était vue refuser l'investiture au motif qu'elle n'adhérait pas aux critères de l'islam dans une ville suffisamment islamisée pour pouvoir désormais se passer d'elle. Comment peut-on être assez aveugle pour ne pas voir qu'il y a un lien étroit entre cette question de la République islamique et ce qui se passe chez nous, en Angleterre, on le voit désormais chaque jour, en France, aux États-Unis, au Belgikistan et ailleurs. Tous les événements qui s'y produisent sont liés. Aujourd'hui, un renversement de la République islamique d'Iran serait un signal. Sinon, dans le monde entier, la Chine, l'Inde, le Japon ne sont pas concernés par cet enjeu. Du moins en Occident. C'est la raison pour laquelle, après un temps de censure dont l'efficience est cependant réduite par l'existence de médias alternatifs, la République, comme elle a toujours fait, donne la parole à des agents doubles, intervenant pour réformer le régime des mollahs, mais sans l'abattre. Presque tous les invités iraniens sur nos plateaux de télévision s'y emploient, mettant en avant la cause des femmes, mais discréditant le prince Reza et ses prédécesseurs, de même qu'ils ont pris, il y a quelques mois, la défense de la République islamique contre Israël. Le républicanisme occidental y trouve son compte, et l'islamisme aussi, au sens où il peut accepter de faire un pas en arrière pour refaire plus tard deux pas en avant, suivant l'exemple de Lénine. Vu de loin, ce qui se passe en Iran pourrait ne pas intéresser les Français qui jugeraient ce pays trop arriéré, depuis trop longtemps sorti de la grande histoire, pour les concerner. Mais c'est une erreur. Une bonne part de notre avenir se joue en ce moment à Téhéran, car si la République islamique d'Iran tombe, et si, qui plus est, le prince Reza prend les commandes du pays pour une tâche surhumaine qu'on ne pourrait souhaiter à personne, ce sera chez nous aussi un bouleversement politique et intellectuel considérable. Par une étonnante ironie de l'histoire, on voit dans le pays où est né l'islamisme, les femmes arracher leur voile au péril de leur vie, au moment même où en Occident, les filles et petites filles de la première génération d'immigrés le nouent farouchement à leurs cheveux. Sans parler de tous les autres signes de revendication hostiles à la civilisation européenne. Le bouleversement actuel en Iran marquerait la première défaite de l'islamisme dans le monde. Et de surcroît, la révolte fait apparaître une revendication identitaire. Les Iraniens redécouvrent qu'ils pourraient être avant tout des Perses, comme avait tenté de leur faire comprendre le roi Mohamed Reza au fait de Persépolis en 1972, pour ceux qui s'en souviennent. La fréquentation des mosquées s'est déjà effondrée, déjà il y a 3 ans. En février 2023, le mollah Mohamed Abolghassem Douabi, j'espère que je prononce bien, le GH, mais mon invité saura me dire si ça se prononce R ou G, je ne sais pas. Membre de l'Assemblée des experts, ce qu'on appelle l'Assemblée des experts, ce sont des mollahs habilités à nommer le guide suprême. Il déplorait, il y a 3 ans, que, faute de fidèles, 50 000 des 75 000 mosquées du pays avaient été fermées. Autrement dit, les 2/3. Il est difficile de savoir vers quel saint se tournent aujourd'hui les Iraniens, puisque quitter officiellement l'islam est puni de mort. Mais il est bien possible que ce demi-siècle de terreur islamiste ait conduit à une prise de conscience majeure. Je pourrais continuer encore cette longue introduction, mais j'ai peur d'en dire trop et d'empêcher mon invité de parler. Alors, merci d'avoir bien voulu répondre à cet entretien. Ezan Kazi, vous êtes né en Iran. Quel a été exactement... D'abord, quand êtes-vous né? Vous n'êtes pas une dame pour cacher votre âge. Vous paraissez bien jeune avec vos cheveux noirs. Allez-y.
Bah écoutez, merci d'abord pour cette invitation qui me donne l'opportunité de m'exprimer après des années d'étouffement. Je reviendrai par la suite sur les difficultés que j'ai vécues et je continue à vivre. Voilà, dû à mes positions en France. Et puis, avant de commencer, je souhaite aussi demander un peu d'indulgence aux auditeurs parce que je souhaite, comment dire, je sors tout juste d'une période difficile sur le plan médical et une hospitalisation récente et je ne suis pas complètement, comment dire, même psychologiquement d'autant plus que c'est une, comment dire, c'est un format, un exercice qui et je ne suis pas habitué.
On va faire ça ensemble, rassurez-vous, on va faire ça ensemble. D'abord, je repose mes questions. Vous êtes né en Iran, on est d'accord ?
Absolument.
En quelle année ?
Je suis né en 77.
Ah, donc vous aviez tout petit, disons, quand la révolution a éclaté, quoi.
Ouais. Voilà. Et donc... Ouais.
Alors, comment est-ce que vous avez... Mais vous êtes né en Iran, mais vous n'êtes pas venu tout de suite en France. Vous ne faites pas partie des immigrés de la première heure, c'est-à-dire la vague blanche, quoi, qui a fui la révolution, si ?
Pas du tout. Je suis resté en Iran jusqu'à 2005.
Ah, en effet, oui, en effet.
Voilà. Donc, j'ai fait quelques années d'études et de travail. Et voilà. Et bon, j'ai vécu dans un, comment dire, dans un milieu, disons hostile, en quelque sorte.
Alors hostile à la République islamique, vous voulez dire ?
Je veux dire hostile à comment dire, à mon univers personnel.
D'accord.
Ouais. Bon, j'ai grandi dans un milieu où j'avais à ma disposition depuis mon enfance quasiment les fondamentaux de la civilisation européenne, de Homère à Dante à de comment dire de Bach à Beethoven à Wagner, Bruckner, Mahler.
En effet,
notamment la musique qui m'a façonné, la musique européenne. Et puis plus tard j'ai fait la découverte déjà dans ma jeunesse, j'avais aussi quelques brèves rencontres entre guillemets avec la pensée européenne de Platon, Nietzsche, etc. Mais plus tard, la découverte était, plus importante,
plus approfondie. Ça veut dire que ça veut dire que vos parents n'étaient donc pas des révolutionnaires. Alors, je dis pour nos auditeurs, c'est le roi qui avait très très bien résumé cela. Il avait affaire à une alliance des noirs et des rouges. Donc, alors, les noirs, ce sont les islamistes. On voit bien le drapeau du califat, par exemple, hein, Daesh, tout ça, c'est un drapeau noir. Donc, à ne pas confondre avec le noir de l'anarchie dans la culture occidentale. Et les rouges, évidemment, la couleur annexée par les communistes, puisque ça n'est plus le rouge de l'étendard, de l'oriflamme de Saint-Denis. Hein, évidemment, c'est un autre rouge. Et donc, au moment de la Révolution, vos parents... Dans quel état d'esprit étaient-ils ? Est-ce qu'ils étaient rouges ou est-ce qu'ils étaient fidèles au roi et qu'ils ont assisté à cette révolution ?
Écoutez, comme vous le savez, le pays était assez largement embarqué dans ce mouvement.
Cette révolution,
Cette révolution... pas l'ensemble, pas l'ensemble de la population, mais en l'occurrence, mon père faisait partie d'une certaine intelligentsia,
progressiste.
Paradoxal, comme tout en Iran, tout est contradictoire, il y a des paradoxes assez déchirants. Et mon père, dans sa jeunesse, au moment de la Révolution, il a été aussi, comment dire, faisait partie de cet engouement.
Donc du côté rouge, pour le coup.
Il a été influencé par la pensée directement ou indirectement, voilà, la pensée révolutionnaire
occidentale, ouais.
Occidentale et revisité par des intellectuels tels que vous connaissez peut-être Shariati, qui était un voilà, qui était un islamo-marxiste, qui avait fait ses études en Grande-Bretagne. Et qui était très proche de Sartre.
D'accord. Donc, voilà. je rappelle pour nos éditeurs que tous ces intellectuels, Sartre et tous les autres, Deleuze, Foucault absolument. Et compagnie, ont tous été des partisans enthousiastes de la révolution iranienne. Et Foucault voyait dans l'islamisme de Khomeini quelque chose de tout à fait remarquable et intéressant. Ces gens-là qui se proclamaient athées, là, l'islamisme ne les gênait pas du tout. Ce qui les gênait, c'était
évident. Écoutez, tout à fait. Mais bon, disons, les connivences et les convergences sont beaucoup plus profondes. Ouais. Si vous voulez, on peut remonter à très loin. Les liens entre l'islam et la pensée, disons, les ancêtres ces figures de l'intelligentsia française,
oui.
Comme Foucault, Sartre, oui, de Beauvoir, oui. Deleuze et autres, font des lumières. On croit que, par exemple, Rousseau et Voltaire étaient des anticléricaux ou des voilà. Alors que c'est dans les textes. Rousseau et notamment Voltaire, ils font un éloge de l'islam comme religion civile, comme en opposition au christianisme, qui est qui n'est pas une religion apte à à servir, n'a pas d'utilité politique.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas une religion civile. Alors que l'islam, c'est le mot. Disons, c'est un texte. La religion rationnelle.
Oui,
c'est Voltaire qui l'écrit. Voltaire. C'est le même Voltaire qui, par ailleurs, critique le fanatisme de l'islam, mais il joue l'islam comme une force,
ouais,
comme
ouais.
Comme une doctrine qui permet à une société d'avoir une cohésion.
Oui, c'est vrai, puisque c'est
voilà, c'est parce que l'islam, dans son essence, est une... les concepts sont pas tout à fait... on ne peut pas parler vraiment de politique dans l'islam. Il n'y a pas de pensée politique telle qu'on l'entend en Occident. Mais en tout cas, le noyau de l'islam, l'essence de l'islam, c'est une objectivité. Enfin, l'islam n'est pas une doctrine spirituelle où il n'y a pas de... l'islam est par essence politique.
Oui, oui. Ça me rappelle un petit souvenir que j'ai, que je partage avec vous et avec nos auditeurs, bien entendu. Après un gros chahut fait lors d'un match de football par des musulmans qui vivaient en France, installés en France, je me souviens avoir assisté à une conversation. J'avais dû entrer dans une pâtisserie orientale pour manger un bon dessert, ça fait partie de mes vices. Et j'entendais une conversation entre un vieil homme et un jeune homme. Et le jeune homme défendait l'idée d'avoir mis du chahut dans tout ce match. Et le vieil homme lui en faisait le reproche. Et à un moment, à bout d'arguments, il a dit au jeune « Mais enfin, tu n'as plus de religion ou quoi ?» Et c'est comme ça qu'on comprend que chez eux, la religion est vraiment une sorte de religion civile, politique. Elle tient,
absolument.
Elle tient tout le monde comme ça. Et c'est comme ça, vous, que vous avez vécu, évidemment, vos premières années en Iran.
Sauf que bon, disons, l'islam, comment dire, disons le régime iranien comment dire, est une synthèse, disons, un mariage de plusieurs éléments. C'est l'islam chiite, revisité par les thèses et disons, le projet des frères
Des frères
musulmans.
musulmans, absolument,
Il y a
c'est.
une alliance entre les frères musulmans qui sont sunnites le clergé chiite. Et puis la modernité occidentale. Disons que le régime iranien c'est bien, on parle d'une révolution. Disons, voilà, ça fait partie des révolutions modernes depuis la Révolution française.
Bien sûr,
Il y a beaucoup de similitudes entre la Révolution française et la Révolution iranienne. Disons, pour schématiser un peu, la révolution de 79 est une transposition de la révolution française 2 siècles après au Moyen-Orient. Il y a
Aux
les
yeux
mêmes
des aux
principes, ce
oui.
sont les mêmes acteurs. Enfin, il y a par l'intermédiaire, si vous voulez, il y a la révolution française, il y a mai 68. Après, il y a beaucoup de révolutions qui se sont déroulées avant. Mais en gros, c'est aussi le mai 68 qui a favorisé la révolution 79. La même révolution 68 est précédée. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais en 60.
68, on rêve de 17, non? De 1917, non?
Comment?
En 1968, on rêve de 1917.
Absolument,
Ouais.
absolument. Mais ce que je voulais dire, vous savez, en 67, une année avant 68, les liens sont assez étranges. C'est curieux. Il y a le voyage de Shah d'Iran à Berlin en 67.
Ouais.
En 1967, il y a une visite officielle du Shah avec sa femme. Au cours de ce voyage, les étudiants gauchistes manifestent contre la venue du Shah d'Iran, qui est présenté comme la figure de l'impérialisme, du fascisme.
Ouais.
Et au cours de ces manifestations, il y a un étudiant qui est tué. Et c'est à l'origine de fraction l'Armée rouge.
Ah, la fraction armée rouge, ouais.
Absolument.
Rote armée fraction pour ça.
Baader-Meinhof. Absolument. Donc, vous voyez, et un an après, il y a mai 68. Et puis 10 ans après, les mêmes acteurs de 68, comment dire, ils voient en Iran le nouveau terrain de
Ouais.
leurs idéaux, Sartre, Foucault,
Oui, tous, tous,
Deleuze,
voyons.
etc. Foucault lui-même, il débarque en Iran en tant que journaliste et il forge un soi-disant concept absurde et complètement vide de spiritualité politique, en disant que voilà, ce que l'Occident a oublié depuis la Renaissance, les Iraniens sont en train de le réaliser. C'est juste de spiritualité politique. Après, par la suite, on a vu ce qu'était la spiritualité
En
politique.
effet, aux dépens
Même
des rouges
Foucault, qui
d'ailleurs.
était homosexuel,
Ah
il ignorait que ces mots-là aller jeter les homosexuels de quatrième étage.
oui.
Bon, bref. Et
Alors
voilà.
il faut préciser aussi pour nos auditeurs qui entendent pique-pendre du régime monarchique qui a précédé, l'Iran à l'époque est le seul pays, on va dire, du monde libre. Qui est une frontière de 2000 km avec l'Union soviétique, parce que aujourd'hui ce sont des républiques indépendantes musulmanes d'ailleurs, mais qui sont au nord de l'Iran. Mais à l'époque, c'est l'Union soviétique, c'est l'URSS quand on a 2000 kilomètres de frontière commune avec l'URSS, est-ce que les Français peuvent s'imaginer ce que ça veut dire? C'est le double de, entre Dunkerque et Menton, quoi, le double de distance. Donc il est évident qu'il y avait en Iran un parti communiste, le Tudeh, qui était un parti communiste extrêmement puissant et redoutable. Et naturellement, le régime, on est en plus dans les années 70, c'est-à-dire Saïgon est tombé en 75, la monarchie éthiopienne est tombée en 74, enfin, une sorte de jeu domino, là, de sorte de succès des communistes un peu partout dans le monde. Toute l'Indochine y passe, hein, je parle de Saïgon, mais le Laos, le Cambodge, etc. Et donc, quand on a 2000 kilomètres de frontière avec l'Union soviétique et un parti communiste aussi puissant que le Tudeh, on peut pas être comme la Suisse. On est obligé d'avoir une politique de surveillance et de répression avec la fameuse SAVAK, la police de l'époque. Forcément, on est obligé de s'acclimater, enfin, de s'accommoder de l'actualité. Et donc, toutes les calomnies qui se répandent aujourd'hui pour empêcher, justement, le retour, on peut dire le retour du prince actuel. On peut parler de retour parce que lui, il a vécu jusqu'à, encore une fois, on est du même âge, donc il a vécu jusqu'à, il avait presque 19 ans, pas encore, à la cour, forcément, puisqu'il était le prince héritier. Donc, faut resituer les choses dans leur contexte. Cette alliance islamo-gauchiste repose sur un tas de mensonges de toute nature. Ouais. Alors, vous vivez dans une famille qui, bon, plutôt, on va la classer parmi les rouges, si je comprends bien. Et est-ce que cette famille, je ne sais pas si vous avez toujours vos parents, mais est-ce que cette famille a changé d'avis sur le régime qui précédait? Ou est-ce que c'est simplement...
Excusez-moi, il y a une coupure, je n'ai pas entendu votre dernière phrase.
D'accord, je disais, votre famille, elle, vos parents, enfin bon, ont été plutôt du côté des Rouges au moment de la Révolution. Est-ce que, avec l'évolution de la situation, ils sont revenus sur les erreurs de toute une catégorie de la population et sur leurs engagements qui ont abouti au renversement de la monarchie? Parce que en France, on a donc deux...
Absolument.
Ah oui, d'accord. Parce qu'en France, on a deux catégories...
Absolument. Disons que...
Je vous écoute.
Oui, je vous écoute.
Non, je disais, en France, on a deux catégories d'exilés.
Oui, absolument.
On a la première. On a la première. Oui. Les premiers exilés, c'est évidemment les Blancs, qui fuient la Révolution et son cortège de massacres, d'exécutions sommaires, etc. Et puis, on a ensuite la deuxième catégorie, ce sont les Rouges, qui ont été les dupes de cet accord, de cet islamo-gauchisme, et qui sont venus en France. Et alors,
absolument,
on ne donne la parole qu'à ces gens-là, qu'à la vague rouge. Donc des gens qui sont contre la République islamique, mais ça n'en fait pas des gens pour le retour à la Perse. Ça fait simplement des gens qui auraient bien aimé faire de l'Iran une Union soviétique, enfin voilà, une Russie bolchevique, et qui ont échoué et qui aujourd'hui voudraient une sorte de république, je ne sais pas de quelle nature. Donc il faut bien se méfier de la différence entre ces deux catégories d'exilés. C'est-à-dire, les Blancs, on les entend jamais. On n'entend que les Rouges. Alors, l'exemple type, puisqu'elle vient de mourir il y a quelques jours, on peut en parler, c'est Marianne Satrapi. Je suppose qu'on prononce Marianne, parce qu'il y a un J, mais enfin, je ne sais pas si on dit Marjane. Satrapi, qui est l'auteur du fameux film d'animation, là, qui n'était pas un dessin d'animation, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce dessin animé qu'on appelle... Persepolis, et dans ce Persepolis, on voit très bien un discours de mauvaise foi de Marjane Satrapi, qui était à la fois rouge par ses parents et en même temps descendante de la dynastie précédente, la dynastie des Qadjar, qui avait été renversée par la dynastie des Pahlavi. Alors, il faut essayer de comprendre aussi le principe de la monarchie en Iran. La légitimité monarchique n'est pas du tout la même que chez nous, par exemple. Elle repose sur le fait que le fait que un prince soit béni des dieux et il est béni
des dieux. Connexions.
Oui, mais c'est pas grave, j'ai parlé, je fais un tunnel parce que j'ai vu qu'on était déconnecté. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je parlais de Marjane Satrapi qui, dans son Persépolis, est de très mauvaise foi et en tout cas était une anti Pahlavi, peut-être pas monarchiste parce que sa grand-mère
était. Vous avouez que j'ai pas vu. Regarder le film, je n'ai toujours pas regardé le film depuis.
Pour ne pas déprimer ou pour ne pas vous mettre en colère, pour ne pas vous énerver peut-être.
Pas spécialement. Ouais. Pas spécialement ça. Voilà.
Bon, donc vous êtes dans une. Parce que maintenant, effectivement, alors ici, dans tous les médias possibles et imaginables, pour des raisons qui peuvent être différentes. Il y a les anti-sionistes, il y a les anti-américains, il y a les rouges qui sont très majoritaires en France. Oui. Et puis il y a des blancs qui sont tellement anti-sionistes pour ne pas aller plus loin, parce que je n'aime pas galvauder. Pourquoi pas.
Et qu'est-ce que vous entendez par les blancs, je veux dire, par les souverainistes, etc.
Il y a une sorte d'hostilité, ou au mieux d'aveuglement, d'hostilité à l'égard du prince Reza, où l'on prétend qu'il ne pèse rien en Iran. Moi, je ne sais pas s'il pèse rien, mais enfin, à chaque fois qu'on voit une révolte, c'était déjà le cas à l'époque de Mahsen Amani, la malheureuse kurde qui avait été tuée par la police des mœurs, pour ses cheveux, vous savez, qui dépassaient du voile. Il y a une sorte à chaque fois qu'on voit des manifestations, c'est Javid Shah, c'est-à-dire vive le roi, ou Pahlavi va revenir, etc. Enfin, ces gens-là n'existent pas, y compris dans les milieux les plus proches, qui me sont les plus proches, il y a une sorte d'hostilité qui vient du fait que Israël est en guerre contre l'Iran, ou l'Amérique est en guerre contre l'Iran, et sous prétexte d'antisionisme ou d'anti-américanisme, alors il ne faudrait pas soutenir la malheureuse population iranienne massacrée par son régime. C'est exactement, ça fait penser, je peux en parler très à l'aise, puisque mon père était FFI dans les forces françaises de l'intérieur, était maquisard, mais il y a des gens à sa génération qui étaient très anticommunistes, mon père l'était aussi, évidemment, et qui se sont engagés dans la LVF pour combattre le bolchevisme. C'est un combat très noble, sauf qu'à ce moment-là, c'était quand même très maladroit de revêtir l'uniforme de l'armée qui occupait notre pays. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Et bien là, c'est un peu la même chose. Je regarde tous ces amis politiques comme des gens plutôt collabos, et qui ont revêtu l'uniforme de la LVF. Pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin bon, je vais être très polémique. Absolument. Après tout, pourquoi pas. Donc, revenons à votre cas, à vous, Ezan Kazi, parce que vous grandissez dans cet Iran occupé par l'islamisme, comme disent ceux qui sont de votre bord et qui parlent du régime d'occupation de l'Iran. J'aime beaucoup cette expression-là. Et qu'est-ce qui vous amène en France? Les études? Écoutez, seulement
Écoutez, oui. Disons que après quelques années d'études à l'Université de Téhéran, des études que j'ai abandonnées parce que l'Université de Téhéran, malgré le prestige qu'elle présentait à l'époque, puisque vous savez, il y a des universités d'État, dont l'Université de Téhéran, et des universités de libre, l'université qui a été fondée après la Révolution, bien après, s'appelle l'Université libre islamique, et qui est plus facile d'accès. Mais il faut tout de même passer un concours extrêmement difficile pour entrer à l'université. C'est pas sur dossier comme ici.
Quand vous dites difficile, c'est administrativement ou c'est scientifiquement difficile, académiquement difficile?
Les deux. Disons, il faut se préparer comme un concours d'agrégation pour entrer à l'université. Passer un concours, donc vous pouvez très bien être pris dans un domaine que vous n'aviez pas préféré.
Ah d'accord. Ah, d'accord. Donc, voilà. On s'est inspiré moi, d'eux avec notre système ACUET d'orientation des étudiants. Mais vous, quand vous avez commencé des études universitaires, c'était dans quelle matière ?
L'économie. Alors qu'on ne sait pas du tout, disons...
Ah, ce n'était pas du tout ce que vous cherchiez. Ah,
oui. Parce que, disons que j'ai choisi plutôt l'université, entre guillemets, prestigieuse, que le domaine. J'aurais pu... À l'époque, on m'avait déconseillé de faire des études de philosophie en Iran, ce qui était un bon conseil. Puisqu'il y a un naufrage, et puis voilà... si vous voulez, disons que l'état de la pensée et de la philosophie en Iran est assez catastrophique. Il y a déjà un manque de formation et de textes. Bon, bien sûr, depuis des décennies, on disposait tout Platon, une grande partie d'Aristote, etc. Mais bon, toute la pensée, l'histoire de la pensée philosophique européenne a été, largement... à cause notamment de la révolution qui a mis un arrêt, disons, peut-être s'il n'y avait pas la révolution, on aurait eu peut-être un développement, ne serait-ce que sur le plan académique des sciences humaines.
Alors, en tout cas, donc on vous empêche de faire philo et on vous envoie en économie.
On n'a pas empêché, mais simplement, étudier la philosophie à l'université en Iran, c'est de se plonger dans ce qu'on appelle la philosophie islamique ou arabe.
Oui, la falsafa.
Etc. Voilà, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, j'ai préféré, à l'époque, j'imaginais que j'allais faire du droit et devenir avocat. J'étais jeune, je n'avais pas encore trouvé ma voie. Et finalement, j'ai été pris à l'Université de Téhéran en économie. Donc, j'ai commencé ces études-là. Sauf qu'après 3-4 ans, j'ai abandonné complètement. En plus que l'université était complètement politisée. Ce qu'on appelle... les Basidjis étaient très présents à l'université.
Ouais, les gardiens de la révolution, ce genre-là.
Il y avait un climat révolutionnaire, en fait, à l'université.
Les Pasdaran, c'est les gardiens de la révolution, et les Basidjis, c'est quoi ? C'est l'aile...
Des milices à la base qui font partie de la société civile. Ouais. Et qui, toute ma jeunesse, comme beaucoup de jeunes... j'ai été confronté.
Ouais, d'accord. Disons, c'est un peu comme dans l'université française actuelle, les milices d'extrême gauche qui terrorisent les étudiants. Écoutez, donc vous décidez de venir en France et on va aborder cette question-là, mais je vois qu'il est déjà ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on se parle et donc on pourrait peut-être se passer une plage de musique pour faire se reposer un peu nos auditeurs. Je suis avec Ezan Kazi qui est arrivé donc d'Iran en France à l'université française en imaginant qu'il trouverait son bonheur et ne se doutant pas, évidemment, qu'il découvrirait en France la même université que celle qu'il avait quittée en Iran. Je caricature peut-être, Ezan Kazi. En tout cas, vous êtes à quel niveau quand vous sortez d'Iran pour venir faire vos études en France? Quel niveau académique?
Écoutez, bon, avant de reprendre, je souhaite juste préciser quelque chose, revenir à ce que je disais sur l'état, disons, des, comment dire, l'état de des études et de, comment dire,
ouais.
De
en Iran,
texte, ouais. Philosophie, etc. En Iran, aussi, disons, il y avait d'une part ce manque. Et en même temps, il y avait les derniers cris occidentaux, notamment français. Il y avait tout ce qu'on trouvait et ce qu'on trouve dans les librairies, dans les rayons, des masses de traductions de Deleuze, Derrida.
Bah, tous ceux qui avaient soutenu la révolution.
Absolument. Donc, pour vous dire quand même, la quasi-totalité des étudiants iraniens qui viennent ici pour étudier, ils viennent, pour rejoindre ce mouvement-là, je veux dire.
Ouais. Donc, vous avez atteint quel niveau avant de venir en France, quand vous étiez là?
Écoutez, comme je vous ai dit, j'ai abandonné les études d'économie au bout de 3-4 ans avec une licence qui valait pas grand-chose.
Ouais.
Et j'ai commencé à travailler.
Et on vous laisse partir en France, ça pose pas de problème?
Ah non, il n'y a pas d'eau.
D'accord.
Non, il n'y a pas d'eau, évidemment. Et donc, je suis venu, disons, je n'ai pas enfui l'Iran, parce que j'étais, malgré tout, si vous voulez, depuis même ma première jeunesse, je vivais comme quelques amis de mon entourage, dans un, comment dire, dans une liberté stoïcienne. Donc, on vivait comme on voulait. Je veux dire, moi, avant même venir en Europe, en France, j'étais profondément enraciné dans la civilisation européenne. Donc, je vivais en Europe.
Une sorte d'Europe intérieure, alors.
Une Europe intérieure. Ah. Quand je suis arrivé en France, en l'occurrence à Strasbourg, je me suis trouvé chez moi. Disons, il y avait une niche culturelle. Donc, j'ai quitté un territoire étranger, pour tout vous dire.
Ah oui, ça c'est étonnant. Ouais.
Un territoire étranger et hostile qui, malgré tout... vous savez, il y a aussi des paradoxes. Le régime iranien qui oppressait, qui interdisait, etc. Mais ce qui m'intéressait, moi, n'était pas interdit. Depuis le début de la révolution, pendant au moins les deux premières décennies, puisqu'il y avait déjà un fond, disons, de la culture européenne, avant la révolution, comme vous le savez, les Iraniens, enfin une grande, une large partie des Iraniens relativement cultivés étaient très mélomanes. Avant la révolution, il y avait les plus grands interprètes, dont celui qui allait m'accompagner toute ma vie, Karajan, était l'ami de Shah d'Iran. Hein. Et la révolution m'a enlevé, disons.
Alors, pour les jeunes générations, oui, c'est, disons, l'un des, sinon le plus grand chef d'orchestre de sa génération. C'est prodigieux, Karajan.
Oui, en tout cas, pour moi, il reste le plus grand
et
figure qui synthétise l'Europe, même, ouais. En quelque sorte.
Je vous interromps, pour nos auditeurs, car vous savez que Radio Courtoisie est aussi la radio qui se veut, la radio de la francophonie. À l'époque du Shah, donc du roi, Shah ça veut dire le roi, le passeport iranien était libellé, alors bien sûr en persan, mais en français.
Absolument, ce qui est marqué l'Empire,
l'Empire d'Iran. Oui, ouais, c'était écrit en français.
Absolument.
Voilà, le français était privilégié.
Et ce passeport était, avait la valeur de passeport suisse. Les Iraniens n'avaient pas besoin de visa pour voyager dans le monde entier.
Ouais, ouais.
Et juste pour vous raconter une anecdote qui concerne, mes débuts en France, mon arrivée. Je suis arrivé en 2005 avec l'invitation d'une école à Strasbourg, une école d'art, puisque je pratiquais aussi l'art, pour passer le concours d'entrée dans cette école. Et avec un visa de 3 mois, donc je suis venu en France et j'ai passé le concours et j'ai réussi le concours. J'ai réussi le concours et ensuite, normalement, quand vous réussissez le concours, vous restez en France, vous changez votre statut, vous obtenez un titre de séjour pour commencer vos études.
Ouais.
Sauf que l'administration française est tellement, des dysfonctions que je découvrais à l'époque, on m'a fait attendre que la personne qui s'occupait de mon dossier à la préfecture retourne de ses vacances pour traiter mon dossier, alors que mon visa allait
s'expirer.
Et donc, finalement, la personne revient et on me promet, si jamais je dois retourner en Iran, on va me fournir tous les documents, tous les papiers, pour qu'il n'y ait pas de problème à l'aéroport, puisque j'ai plus de visa. Et c'est ce qui s'est produit. On m'a obligé de retourner en Iran, redemander un visa, et retourner en France, avec 2 mois de retard, alors que voilà.
Alors là, vous êtes en école d'art, il s'agit d'art plastique ou de quoi donc ?
Absolument, de l'art plastique. Juste où je termine, parce que c'est assez, c'est un traumatisme que je n'ai pas oublié. J'ai dû retourner en Iran par l'Allemagne, parce que j'étais à Strasbourg, les vols étaient moins chers de Düsseldorf. Et la préfecture m'a fourni des papiers qui justifiaient ma présence sur le sol de Schengen. Et la police allemande ne lisait pas, en français, je veux dire, les documents. Ils ont simplement regardé mon passeport. Ils m'ont emmené dans des sous-sols. J'ai été traité comme un terroriste.
Oh là là! Compte tenu de la mauvaise réputation de la République islamique.
Très violemment, violemment. Alors que dans mon sac qu'ils ont vidé sur la table, il y avait des choses qui concernaient la civilisation, enfin la culture allemande de Hegel, Wagner, etc. Et j'étais traité comme un terroriste, violenté, tout ce que vous voulez pendant une demi-heure, et j'ai failli rater mon avion. Et voilà. Donc, c'est à cause du passeport, ce que je voulais dire, le passeport iranien, le passeport d'un régime terroriste.
Oui, c'est ça, bien sûr, on peut
je suis représentant d'un régime terroriste.
Bien sûr, on peut comprendre, évidemment. Ouais. Voilà. Et donc, vous revenez en France, et là, vous commencez des études qui ne sont pas des études d'art. Si, c'est encore des études d'art.
Tout à fait, j'ai commencé des études d'art. En ayant en perspective de passer à la philosophie.
D'accord.
De mener les deux, en fait, en même temps. Mon but, c'était d'entrer dans une école, enfin une faculté à Paris, qui était la faculté jésuite de Paris, parce que j'ai été présenté à un des spécialistes de la pensée, enfin des doyens de la pensée de Hegel en France, qui était un jésuite, qui était mon maître, finalement. Et finalement, j'ai abandonné les études d'art. Je suis, après 2 ans, je suis venu à Paris Et j'ai fait des études de philosophie et de théologie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Et petit à petit, je découvrais la réalité. J'avais déjà, avant de venir en France, j'avais déjà une idée de la situation de l'Europe et de la France. Disons, je savais déjà que l'islam était en train de gagner,
de contaminer,
terrain, et que même dans un des journaux officiels de l'Iran, je me souviens, il y avait un article sur l'état délabrement de l'université de la Sorbonne en Iran.
Ah oui, ça c'est oui, extraordinaire. Voyez,
déjà dans les années 2000.
Ah oui, extraordinaire.
Donc, ouais. Donc que le niveau a baissé bref. Après 5 ans d'études chez les jésuites, je suis passé à la Sorbonne.
Mais alors, chez les jésuites, je connais pas bien. Donc c'est quoi? C'est la FACO, comment on appelle cette université privée, donc à Paris?
C'est une université privée qui s'appelait à l'époque le Centre Sèvres, c'est à Paris.
Ah, le Centre Sèvres. Oui, oui. D'accord.
Vous voyez, rue de Sèvres, en face de Montmartre. Rue de Sèvres, voilà, maintenant, ils ont changé de nom. La faculté, le LEA. Voilà, puisque c'est le fondateur des jésuites. Mais en tout cas, c'est toujours la faculté jésuite de Paris.
Et donc, vous partez à la Sorbonne. En quelle classe? Enfin, vous êtes en quoi? Génération
Disons en 2000, en 2012-13.
Oui, mais alors vous êtes en M1, M2, comment?
Je suis pris en M après 5 ans.
En M1,
parce
d'accord.
Parce qu'il y avait
une passerelle,
j'ai fait 5 ans,
une équivalence. Oui.
Comment? Une équivalence j'ai une équivalence de licence après 5 ans d'études. Et je suis parti en M1 et en M2. Bon, je les ai fait en 3-4 ans, puisque je travaillais à côté. Et puis, l'arrivée de la Sorbonne, c'était naturellement une grande déception. C'était le contraire de ce que j'imaginais. La fermeture le milieu, à l'époque, il n'y avait pas encore cette sauvagerie, entre guillemets. Il n'y avait pas encore ces milices Basidji à la Sorbonne.
Oui, c'est ça, le qui va des Basidji.
Mais en tout cas, il y avait peu d'honnêteté intellectuelle.
Est-ce que vous avez rencontré des Iraniens comme vous?
Je n'ai jamais cherché à rencontrer des Iraniens. Occasionnellement, mais je n'ai pas approfondi de relations parce que je n'ai pas, même en ce qui concerne l'Iran, j'ai pas les mêmes. J'ai beaucoup de divergences.
Ouais, c'est ça. Parce qu'encore une fois, il y a deux vagues, mais il y a les blancs et les rouges. Donc. Vous vous entendez pas forcément très bien, même si vous êtes tous les deux iraniens.
J'ai des divergences même avec les opposants. J'ai beaucoup de réserves, beaucoup de critiques à l'égard de cette idéalisation de la Perse, de ce nationalisme iranien qui cache beaucoup de choses et le côté obscur, le verre à moitié vide. Évidemment, je suis le premier à regretter l'époque de Shah, mais les choses, ne sont pas commencées avec la révolution islamique.
Oui, bien sûr, oui.
Et on part dans un autre sujet, mais même le chat lui-même, c'est lui-même qui a fait la première révolution, appelée révolution blanche.
Bien sûr.
Oui, il y a beaucoup d'eau entre parenthèses pour faire encore un parallélisme entre la révolution française et la révolution iranienne. Il y a beaucoup de similitudes entre Louis XVI et le Shah d'Iran.
Oui, 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 je comprends.
La faiblesse, c'est, comment dire, voilà, mais en tout cas, bon, on peut développer ça, mais malheureusement, on n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, le Shah lui-même, il a favorisé, disons, l'avènement de la révolution en accordant des libertés dont la société n'était pas encore apte
à recevoir.
En faisant une modernisation superficielle et forcée dans un pays avec de l'argent de pétrole, bien sûr, c'était très joli d'inviter, des artistes, des Rubinstein, des
grands pianistes de son époque, et je le dis pour nos auditeurs,
voilà, des Dorati. Des Vitrocchini, etc., etc. Ouais. Mais tout ça, c'était en fait
c'était un vernis.
Une façade qui cachait un fond religieux et assez hostile.
Mais justement, alors tout ça, ça s'est retourné contre le roi, mais dans votre jeunesse, quel âge avez-vous quand vous quittez l'Iran
27 ans.
27 ans. Donc, dans votre jeunesse, est-ce que vous voyez la chute de la pratique religieuse
Absolument. Vous savez, pour vous dire, en fait, en Iran, il y avait, je pense que ça ne date pas seulement de l'époque de la République islamique. Il y a un fond d'islamophobie. Une réelle islamophobie en Iran, bien sûr, pas dans l'ensemble du pays, mais il y a un fond de l'islamophobie, une hostilité à l'islam, que ce soit basé sur des, sur des faits réels, objectifs ou non. On considère que l'islam est une religion importée par l'invasion arabe, et que nous sommes des Perses, etc., etc.
Ouais.
Et il y a une hostilité à l'islam. Vous voyez, récemment, au mois de janvier, on voyait que les manifestants, ils brûlaient les mosquées.
Oui, oui, oui.
Quand je voyais sur le plateau de CNews, la directrice de Boulevard
Voltaire,
en plein massacre, en Iran, invite un imam turc sur le plateau de CNews pour dire que ce n'est pas les mosquées qui brûlent, les motifs sont autre chose, et que ça, ce n'est pas le vrai islam. Bon, on sait ce que c'est le vrai islam.
Oui, c'est ça.
Et que la même journaliste à laquelle je m'étais d'ailleurs adressé pour lui exposer ma situation, comme à quelques autres, personnalités médiatiques et politiques de la droite, j'ai eu que mépris et silence.
Alors, je vous propose qu'on passe à ça après une nouvelle pause musicale, c'est-à-dire le fait que vous soyez retrouvé dans une impasse académique, puisque vous n'avez pas réussi à soutenir votre thèse de doctorat, et puis effectivement l'état de la droite, cette espèce d'état collaborationniste, on pourrait presque dire les choses de cette façon-là, de la part de la part des familles qui nous sont les plus proches. Mais je vous propose de faire d'abord une pause pour nous détendre et détendre un peu l'auditeur. Thank you.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers amis auditeurs, nous reprenons pour une dernière ligne droite cet entretien que j'ai le bonheur d'avoir avec Ezan Kazi, un Iranien qui était venu faire des études en France pour y passer un doctorat à la Sorbonne et qui a découvert que l'université française n'était pas tellement différente de l'université iranienne, c'est-à-dire que les milices à l'intérieur de cette université les font penser aux Basidji qui terrorisent les universités à Téhéran. Et donc, je voulais savoir, Ezan Kazi, dans quelles circonstances n'avez-vous pas réussi finalement à soutenir votre thèse de doctorat? Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Bon, la plupart des thèses sont des fausses thèses, évidemment, c'est des trucs wokistes qui n'ont aucun sens. Être, disons, idéologiquement du mauvais côté, je sais ce que c'est, j'ai été fait docteur à l'âge de 30 ans, et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. À la Sorbonne d'ailleurs, devant un jury que je n'avais pas voulu choisir moi-même, parce que vous savez que c'est toujours on prend des gens qu'on connaît bien et qui vous tout ça c'est un petit peu préparé, enfin téléphoné, et moi j'avais pas voulu faire ça, j'avais un idéal universitaire qui était celui du Moyen Âge, époque à laquelle on a inventé les universités avec la disputation devant un jury et bien malement pris. Alors, on m'a donné mon grade, mais disons que je me suis pas fait bien voir l'université ce jour-là. Donc, je sais un peu ce que c'est, mais vous, c'est encore pire. C'est-à-dire, alors, on a des cas incroyables, que j'ai d'ailleurs reçu ici, Coronel de Bressezon, qui lui était un brillant professeur de droit, qui a été carrément... non pas dégradé, on lui a pas retiré quand même son grade, mais on l'a chassé ignominieusement de l'université, ou d'autres qui n'ont même jamais pu y entrer. Je pense à Reynald Secher, par exemple, le grand historien de la Vendée, et qui, dans des circonstances tout à fait extraordinaires, avait réussi à soutenir une thèse sur le génocide vendéen, et c'est la première et dernière thèse avant longtemps qui a pu être soutenue à l'université. Donc, tout ça n'est pas tout à fait nouveau, mais évidemment, je devine que vous, iranien d'opposition, et non pas iranien islamiste ou islamo-gauchiste, ou seulement gauchiste, vous arrivez en France pour soutenir une thèse de doctorat, forcément, vous deviez avoir des problèmes. Comment est-ce que tout cela s'est passé précisément? Alors, vous, d'abord, vous vouliez soutenir une thèse à quel sujet? Sur quel sujet?
Écoutez, si vous me permettez, je voulais juste revenir sur ce que vous avez parlé. Vous venez de dire que ce que j'avais découvert à la Sorbonne, c'était presque la même chose que l'université. Vous savez, je pense que la République islamique. Disons, cette époque de République islamique, ces 50 ans, à mes yeux, constitue une préhistoire de l'histoire européenne de l'islam, en fait. L'islam est en train de, en quelque sorte, tomber au Moyen-Orient, et en fait, voilà, c'est l'histoire de l'islam commence en Europe.
Ouais, très passionnant, ça, ce que vous dites. Ouais.
Et tout ce qui s'est passé en Iran, donc même que la révolution iranienne et la République islamique est en quelque sorte le reflet à la fois de la révolution française et la République française, avec tous ces éléments de la terreur, sauf qu'en Iran, la terreur est constante.
Ouais.
Et Et mais bon, en même temps, je ne vais pas être très politiquement correct, mais c'est une des raisons aussi de que la République française depuis 79 protège en quelque sorte le régime iranien.
Oui, oui, oui.
Disons, la terreur et le terrorisme est dans l'ADN de la République française.
Oui, bien sûr.
Depuis le début. Mmh. Disons, la République islamique est née, enfin, la République française est née dans la terreur et le terrorisme.
Oui, oui.
Sauf que le terrorisme se métamorphose. Vous avez même, par exemple, en Iran, on a les mêmes, par exemple, les Basiji ou les Pasdaran qui tuent, en fait, sont, comment dire, sont des métamorphose ou des nouvelles figures des colonnes infernales.
Oui, c'est ça.
Parce que vous avez parlé de Roland
de la Vendée,
et Vendée. Donc, et voilà. Et en France aussi, les nouvelles colonnes infernales, ce sont ces migrants qui tuent, qui violent, etc.
Oui, oui.
Voilà, c'est plus aussi massif et condensé, mais bon. Mais voilà, surtout ces 50 dernières années, on est retourné progressivement depuis l'épuration après le Vichy, qui correspond un peu au massacre de septembre. Disons, les choses se répètent en
oui,
France.
Oui, oui. Alors voilà. Allons-y à votre thèse.
Mais pour revenir à ma thèse, disons tout ce que je constatais et l'amour que je portais à l'Europe et qui me faisait souffrir pour la situation de l'Europe, comment dire, cette révolution démographique, cette révolution islamique en Europe et surtout en France, m'ont poussé, bon, d'abord à un engagement politique après les attentats de 2015 et aussi la, comment dire, cette frénésie d'immigration de 2015 portée par la chancelière allemande.
Donc 2015, les attentats de Bataclan, hein, pour resituer.
Voilà, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup ébranlé. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique. Et finalement, j'ai été poussé à, comment dire, avec mon statut d'étranger, avec un titre de séjour, de, comment dire, un engagement politique. Je me suis présenté comment dire, au siège de Front National sur place et je me suis adhéré. Sauf que quelques mois plus tard, la déception fut grande. Parce que je voyais que voilà, ce parti qui était censé de défendre les intérêts civilisationnels français et européens menait directement au multiculturalisme. Donc,
alors attendez, cela on est dans vos engagements, mais on avait commencé par parler du sujet de votre thèse.
Voilà, et ensuite, je me suis promis de me mettre vraiment au service de défense de la civilisation européenne par mes moyens intellectuels. Et donc j'ai élaboré un travail, un projet de thèse avec une diagnostic. Ouais. Un sujet qui était intitulé, disons, enfin, parce que, comment dire, ma référence, et, disons, mon spécialité était l'idéalisme allemand et la pensée hégélienne.
D'accord.
Ce qui m'a donné vraiment à beaucoup de, comment dire, disons, je pense, à travers cette pensée, disons, et les thèses étaient intitulées « L'Orient et l'Occident chez Hegel et le destin oriental de l'Occident
». Déjà,
bon,
très
il faut
intéressant.
Que je, d'abord, en ce qui concerne la Sorbonne, vous savez, j'ai constaté que l'université française et probablement toutes les universités de l'Europe de l'Est sont, comment dire, dominés par deux pôles. D'une part, il y a ces métaphysicistes, si vous voulez, qui sont dans une tour d'ivoire de métaphysique qui est très noble. mais en quelque sorte déconnecté et comment dire, du réel et avec un désintéressement du réel.
Ouais.
Et de l'autre côté, c'est en sort entre guillemets qui s'intéressent à la politique, à la cité, qui sont révolutionnaires, gauchistes, marxistes, etc.
Donc
Mais
Hegel et
il
Marx,
y a
autrement
une
dit.
convergence assez terrifiante. J'avais un directeur de mémoire à la Sorbonne, un des spécialistes de l'idéalisme allemand, qui travaillait sur Maître Eckhart,
Ouais.
etc.,
Moyen
Hegel,
Âge.
Schelling, tout ce qui est très noble, tout ce qui est très beau et tout. Et le même, dans une collection que vous connaissez peut-être, puisque vous êtes philosophe, Vrin, qu'il dirigeait, il fait publier une thèse, évidemment financée par contribuables français, sur le féminisme noir et l'intersectionnalisme et le féminisme noir. Le même, voilà. Et donc, vous voyez la convergence. Et bon, il y avait beaucoup de choses. Et ce directeur,
Dieu est une femme noire lesbienne. Oui, on connaît la thèse.
voilà, peu importe, voilà.
Non, ça a été
Voilà.
une thèse, ça, aux
Donc, il y
États-Unis.
en a plein, il y a des masses qui sont financées donc, et continuent à déconstruire, détruire. Voilà. Et donc, ce professeur, il a pas apprécié,
Le contenu de votre
mon
thèse.
étonnement,
Ah
en
oui,
fait,
pardon, oui.
suite à cette publication. Et
Oui.
aussi des critiques que, par-ci, par-là, j'exprimais sur la situation des recherches à l'université et tout et tout. Et ce professeur a fait en sorte que je ne puisse pas faire ma thèse à la Sorbonne, à l'université,
Donc
à
ça,
l'école doctorale.
d'accord, là c'était sur le destin oriental de l'hégélianisme, c'est
Et
ça?
finalement, j'ai fait ma thèse dans un institut catholique. Voilà. Et après,
De Paris?
non, dans une autre ville,
Ah bon, que vous voulez
en
pas
province.
nommer.
Si
Oh,
vous
il y en a pas
voulez,
tant que
à
ça.
Toulouse.
Ah,
À
Toulouse.
Toulouse.
Oui,
Voilà.
alors là, oui.
Et donc, ça se passait assez bien. Et en 2021, après, disons, 3 ans de thèse, bon, en même temps, quand j'ai commencé ma thèse, puisque j'avais aussi un peu une activité artistique, j'ai été pris par l'Académie de Beaux-Arts de l'Institut de France en tant que membre d'une résidence pendant 2 années. Donc, je menais 2 activités de thèse et
Oui,
l'activité
oui.
artistique.
Vous êtes
Et
peintre ou
finalement,
sculpteur?
de dessin.
Vous êtes dessinateur, d'accord.
Voilà. Et à l'issue, disons, à l'issue de cette résidence, il y a eu, disons, la période de Covid
Ouais.
et tout. Et il y a eu, en 2021, les rumeurs de candidature de Zemmour.
Oui, et là, vous vous ralliez à cette candidature.
Comment dire, ça m'a donné un espoir pour la France, pour voilà, une nouvelle perspective, puisque Zemmour, comment dire, avait une perspective civilisationnelle, ce dont je rêvais,
Oui,
disons.
oui, oui.
Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de partager cet enthousiasme avec mon directeur, et je crois que ça l'a heurté.
Alors,
Et
c'était
j'ai eu un
un...
refus,
Oui,
un
que...
refus, un
Oui.
refus sans explication de poursuite de travail, de thèse. Et par la suite, puisque mon séjour en France, alors que j'allais avoir une carrière dans l'enseignement, je faisais partie, je venais d'être partie des enseignants de l'enseignement catholique, mais pour travailler, j'avais besoin d'un titre de séjour. Et pour avoir ce titre de séjour, je devais continuer mon travail de
Oui,
thèse.
oui, oui.
Voilà. Et donc, le travail de thèse s'arrête. Et quelques mois plus tard, mon titre de séjour s'expire.
Ouais,
Ça prend des mois de trouver un autre directeur et finalement un refus de renouvellement. Et donc, voilà, tout. Donc, depuis 2021 jusqu'à
ouais.
aujourd'hui, Je vis dans une situation, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, un calvaire assez... Alors, ça m'a amené même à développer des problèmes de santé.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, beaucoup de gens sont tombés dans cette trappe de cette université catholique de Toulouse, dont je pourrais dire beaucoup de choses.
Ah,
et notamment de son directeur, qui a été un professeur sous mes ordres à une époque. Bref, et c'est pas très flatteur tout ça.
Dans mon cas, ma situation était, elle est toujours très vulnérable.
Vous avez bien un titre de séjour en ce moment ou alors
Pas du tout. Depuis cinq ans, je suis dans l'attente d'une régularisation. Là, je dispose depuis 2 ans seulement un récépissé qui se renouvelle tous les 2-3 mois pour un jour avoir un titre de séjour. Et pendant ce temps, depuis 5 ans, j'ai aucune ressource, aucune aide et aucun soutien. Heureusement. Je suis accueilli et hébergé ici dans une famille en Corse, mais voilà la situation. Voilà
les misères d'un. Oui, c'est ça. C'est quand même pas banal hein, votre histoire et elle fait penser à d'autres persécutions effectivement. Vous parliez de Toulouse, vous avez peut-être connu Soile d'ailleurs, qui a été persécuté, un prof de philo qui préparait les érégatifs et qui a été persécuté au moment du mariage homosexuel. Parce qu'il avait...
Oui, ça je le sais.
Vous vous souvenez de ça? J'ai connu Soile dans d'autres circonstances. Et lui aussi, il a été persécuté. Enfin bref, vous faites partie malheureusement d'une longue cohorte des victimes de l'université française aujourd'hui, et y compris... auprès de gens dont on attendrait au contraire qu'ils fussent plutôt favorables. Mais enfin, après, il y a des traîtres partout. On n'est jamais trahi que par les siens, d'ailleurs. On n'est jamais trahi par des ennemis, on est trahi par des amis. Sinon, ce n'est pas une trahison. Mais le temps est loin, quand même, hein, qui nous sépare de Ushank Navarandi. Ça ne vous dit probablement rien à votre âge, qui était un professeur iranien. Réfugié en France et qui prononçait des conférences sur cette malheureuse révolution, sur les horreurs de cette révolution islamique. Et effectivement, là, pour le coup, on peut dire que dans nos milieux, disons, idéologiques, il y avait une position beaucoup plus ferme à l'égard de la République islamique d'Iran. Mais là, avec les circonstances, encore une fois, ça me fait penser à la LVF, la Légion des volontaires français. Un tas de gens très bien qui voulaient combattre le communisme et qui ont revêtu l'uniforme de l'armée qui occupait leur pays. Ça. Ouais, ben, on est un peu dans un cas comparable à celui-là. Je propose qu'on fasse une toute petite pause, parce que sur ce constat malheureux hein, qui est celui de votre situation précaire... il faudrait que je vous mette d'ailleurs en contact avec des gens qui, comme vous, ont été victimes du régime. Mais je propose qu'on fasse une petite pause musicale. cher Sankasi, merci d'avoir bien voulu nous raconter votre histoire, l'histoire donc d'un étudiant iranien qui vient en France passionné de culture occidentale et qui découvre dans l'université française une sorte de contamination par l'islam, alors même, dites-vous, que dans le même temps, on assiste, en tout cas en Iran, je ne sais pas si vous généralisez, on assiste au contraire à une sorte de reflux, de recul de l'islamisme. Alors, dans des pays comme celui-là, où la population est sous contrainte, évidemment, mais vous dites qu'il y a un recul réel de l'islamisme en Iran, c'est le régime qui reste islamiste. Et je ne déforme pas votre pensée, hein, je crois, ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui, absolument. De toute façon, disons que le régime a contribué massivement dès les années 80 ce discrédit et cette détestation de l'islam en soi. Donc,
Donc
Disons que ça va même au-delà des frontières iraniennes.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Dans la région, l'islam. Et moi, je ne pense pas qu'une chute éventuelle de régime, évidemment, ça va beaucoup changer la situation, notamment au Moyen-Orient. Mais je ne pense pas que, malheureusement, ça puisse améliorer ou stopper l'islamisation de l'Europe.
Oui, c'est-à-dire que nous n'échapperons pas à l'épreuve. Nous n'échapperons pas à l'épreuve ici, c'est d'ores et déjà acquis.
Comme je vous ai dit, je pense que vraiment, dans une certaine logique historique, je pense que, l'esprit de l'islam, c'est, s'installe ici, en Europe. C'est le début de l'histoire de l'islam pour au moins quelques décennies.
Ça c'est très intéressant de vous entendre dire cela. Et effectivement, pour nous préparer à cela, on ne peut pas dire que les conditions soient réunies. Il nous reste 2 minutes, je suis obligé de conclure. Quand on voit les grandes figures de la droite, il suffit de regarder ou écouter nos médias de droite, où l'on a comparé le guide suprême iranien au maréchal Pétain, autrement dit présenté comme un bravo. Alors on va pas citer les médias pour pas se faire d'ennemis, mais enfin ils se reconnaîtront.
Absolument.
Donc un brave homme pacifique restant aux côtés de son peuple dans la tourmente. On a même relayé la fausse nouvelle iranienne de la mort de Netanyahou. Il me reste 1 minute. Durant la guerre des 12 jours, on avait invité dans nos médias l'ambassadeur du régime islamique, sans qu'on juge utile, au nom du pluralisme, d'inviter également l'ambassadeur d'Israël. Puis une seconde fois, en janvier dernier, en pleine répression de la population iranienne. Autrement dit, nous tirons sur nos alliés, tandis que nos ennemis tirent sur nous. C'est extraordinaire, c'est une situation invraisemblable qui en dit long sur la médiocrité de nos élites de toute nature, politique ou intellectuelle, et sur l'urgence de les remplacer. Et donc, je vise tout le monde en disant cela. Merci beaucoup, Ehsan Kazi, pour votre témoignage.
Merci à vous.
Et bon courage.
Merci.
D'entendre le libre journal d'Yves-Marie Adeline, dirigé par Yves-Marie Adeline, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 15 juin 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association.
Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.